Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Depuis son ouverture en 1992, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, qui fut le siège de la Gestapo à Lyon pendant l'année 43, a reçu 1,2 million de visiteurs et s'est imposé comme l'un des plus importants musées d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Après avoir conduit d'importants travaux, le centre a rouvert ses portes le 16 novembre et présente une nouvelle exposition permanente répondant à un nouveau projet scientifique selon une nouvelle scénographie. La nouvelle exposition, centrée autour de Lyon dans la guerre, s'est attachée à valoriser les riches collections du CHRD. Plus d'une centaine d'objets, de documents d'archives, pour la plupart inédits, sont dévoilés au fil du parcours, comme par exemple le morceau du parachute avec lequel Jean Moulin a atterri dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942 en province pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée par le général de Gaulle, à savoir l'unification des principaux mouvements de résistance non communistes. Et parce que nous entrons désormais dans le temps de l'histoire, selon l'expression d'Annette Pivorka, de nombreux témoignages audiovisuels, prélevés sur les quelques 700 enregistrements effectués par le CHRD depuis sa création, permettent de faire entendre la voix des témoins et favorisent une approche sensible et intime de cette période. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Isabelle Rivier, historienne, directrice depuis donc 10 ans du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Bonjour Isabelle Rivier.
Bonjour.
La première question qui me vient, c'est pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'entreprendre ces travaux conséquents de rénovation? 1,2 million de visiteurs, c'est une belle réussite, on ne change pas une formule qui marche.
Non, effectivement, l'exposition précédente fonctionnait bien, presque trop bien, puisqu'effectivement, au bout de presque 20 ans de fonctionnement et tous ces visiteurs, notamment beaucoup de scolaires, il y avait un phénomène d'usure matérielle des différents éléments, un phénomène aussi d'usure des dispositifs audiovisuels qui étaient très, très à la pointe en 1992, mais qui étaient un petit peu moins en 2011, quand on a fermé le musée. Et puis on avait surtout la volonté de retravailler un peu le contenu de l'exposition. On est maintenant 70 ans après les événements. La transmission directe de cette mémoire-là se fait plus dans les familles, puisque bien sûr les enfants qui ont entre 10 et 15 ans aujourd'hui ont des grands-parents qui n'ont pas connu la guerre. Les anciens résistants, déportés, survivants de la Shoah qui témoignent encore maintenant au CHRD sont en train de nous quitter malheureusement. Donc on avait besoin peut-être de plus de proximité avec cette période, et la proximité, on a choisi de la travailler en parlant plus d'histoire locale, donc en ancrant le propos dans un cadre que les gens connaissent, qu'ils soient lyonnais ou qu'ils soient de passage à Lyon, et puis en s'appuyant sur des éléments matériels, donc objets, documents originaux, et puis sur des éléments immatériels que sont les témoignages audiovisuels d'acteurs de la période.
Les concepteurs de l'ancienne exposition, qui était pour certains issus du monde du théâtre, avaient fait la part belle aux reconstitutions. Il y avait une salle de cinéma, un wagon de déportation, l'intérieur d'une maison de résistants et sa cave. Vous avez souhaité garder cette dernière reconstitution, donc la maison de résistants et sa cave avec sa presse très impressionnante. Pourquoi ?
Parce que c'est des dispositifs qui fonctionnent très bien, qui ont été magnifiquement réalisés il y a 20 ans, qui ont particulièrement bien résisté au passage des visiteurs et qui sont nécessaires pour une plus grande proximité, encore une fois, avec la période, pour une approche peut-être plus sensible de l'ère du temps de la Seconde Guerre mondiale. C'est des espaces qui nous sont très utiles en médiation avec les plus jeunes pour expliquer tout simplement comment on vivait, rappeler qu'il n'y avait pas de télé, pas de Facebook et que le quotidien était peut-être, peut sembler pour aux enfants d'aujourd'hui un peu austère, mais voilà, qu'il était différent et que ça impactait sur les relations entre les gens, entre les parents et les enfants, entre les hommes et les femmes. Donc voilà, ça c'est très important, et donc c'est un espace qu'on a choisi de conserver.
Ce qui fait aussi la spécificité de ce musée, c'est que c'était le siège de la Gestapo. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire du bâtiment?
Oui, c'est un bâtiment qui a une histoire très intéressante. C'est une ancienne école des services de santé militaire, donc c'est le lieu où étaient formés les médecins de l'armée de terre. C'était une école qui était située à Strasbourg jusqu'en 1870, pardon. Et donc avec la perte de l'Alsace-Lorraine, il a fallu trouver une ville d'accueil pour cette école qui est importante, qui formait plusieurs centaines de médecins chaque année. C'est Lyon qui obtient qu'elle soit installée là, et la ville de Lyon construit vraiment une école magnifique pour former ses médecins militaires. L'école va fonctionner à plein régime de 1894 à 1940. Les médecins militaires s'illustrent notamment pendant la Première Guerre mondiale. En 1940, le bâtiment devient aussi le lieu de repli d'une partie de l'école polytechnique, ce qu'on ne sait pas forcément. Et du coup, quelqu'un comme Serge Rabanel va être formé dans ses locaux, ce qui est intéressant. Et puis, à partir du printemps 1943, l'école est réquisitionnée pour servir de siège à la Gestapo lyonnaise qui s'installe donc dans ces bâtiments. Et cette école, lieu de formation humaniste, va devenir un lieu de terreur dans la ville de Lyon, centre d'interrogatoire pour les résistants et les juifs arrêtés dans la région. Ils sont internés à la prison de Montluc et amenés tous les matins en camion dans cette école où les anciennes chambres des étudiants sont devenues des salles de torture.
Prison qu'on peut aujourd'hui visiter.
Oui, hein. La prison de Montluc a été transformée en mémorial en 2010 et elle se visite actuellement. C'est un lieu saisissant dont la visite complète vraiment bien celle du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. C'est deux lieux qui fonctionnaient en synergie. De lieux de terreur et c'est intéressant de se remettre dans ces volumes qui n'ont absolument pas changé. On voit encore les cellules de 4 mètres carrés qui contenaient jusqu'à 8 détenus, donc c'est une visite qu'on peut conseiller effectivement.
Votre nouveau parcours retrace l'histoire de Lyon dans la guerre, comme vous l'avez dit, a souhaité mettre l'accent sur l'ancrage local, mais par rapport à la précédente exposition, vous avez mis davantage l'accent sur la répression de la résistance et aussi la persécution de la population juive. Donc, répression de la résistance qui donc a eu lieu là, dans ce lieu en particulier, Jean Moulin et d'autres y sont passés.
Oui, c'est effectivement des dimensions qui sont constitutives de l'histoire de la ville. C'est l'intérêt d'ailleurs de travailler sur l'histoire de la ville en général. Ça permet de réintégrer un certain nombre de mémoires et pas seulement avoir une vision un peu duale entre résistance et déportation. La répression, elle est partout dans la ville. Et puis, c'était important de rappeler aussi que dès l'automne 40, se met en place la persécution de la population juive dans Lyon. On a retrouvé beaucoup de documents, notamment dans les archives municipales, qui retracent l'histoire de cette persécution. Et rappeler aussi que Lyon était un centre important pour le judaïsme français, puisque c'est le lieu de repli du consistoire central, qui se replie à l'été 40 rue Boissac, près de la place Bellecour. Et que, de fait, Lyon devient un centre spirituel important pour le judaïsme, et c'est aussi un lieu où on imprime un certain nombre d'ouvrages d'instruction religieuse, qu'on a souhaité montrer.
Ça peut paraître étonnant, mais la grande synagogue du Quatil Site est restée ouverte.
Elle est restée ouverte presque toute la période, jusqu'à l'été 44, où elle ferme au mois de juillet pour raison de congé, dit l'écriteau. Et immédiatement, elle est pillée et occupée par la milice. Et on présente aussi des photos des profanations qui ont eu lieu. Mais pendant toute la période, il y a des offices tous les jours, des mariages, une activité qu'on pourrait pas qualifier de normale, mais qui est une sorte de résistance spirituelle qui est vraiment fascinante.
Lyon n'est pas seulement ce que montre votre exposition, elle est restée dans la mémoire collective à la faveur peut-être de la fameuse phrase du général de Gaulle comme la capitale de la résistance, mais avant d'être la capitale de la résistance, c'est un lieu de repli pour beaucoup d'élites intellectuelles parisiennes, c'est ça ? Et puis aussi donc un lieu de d'ébullition intellectuelle.
Oui, il y a vraiment une activité spirituelle, intellectuelle, politique intense dès l'été 1940, parce que beaucoup d'intellectuels parisiens, mais aussi de réfugiés, se sont repliés à Lyon. C'est des gens qui sont souvent bien informés sur le nazisme, donc qui ont, on pourrait dire, une longueur d'avance sur d'autres qui sont encore sous la sidération de la défaite et qui ont un peu de mal à voir clair dans tout ça. Et donc, dès l'été 40, se forment des petits cercles tout à fait informels dans les cafés, dans les librairies, qui commencent à discuter et se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Le mot de l'époque, c'est on voulait faire quelque chose et on ne sait pas quoi. Donc ça va donner lieu à des petites manifestations spontanées à l'occasion du 11 novembre, du 14 juillet, des tracts, des formes de résistance civile qui vont s'affirmer à partir de 1941, où naissent les premiers journaux. Donc les journaux issus des grands mouvements Combat, Libération, Franc-Tireur, mais aussi des choses plus lyonnaises. Je pense notamment à Témoignages chrétiens qui s'élève contre l'antisémitisme à la fin de l'année 1941, avec ce premier titre « France, prends garde à ton âme ».
C'est aussi parce que Lyon était une capitale de l'imprimerie que peut-être sans doute aussi la presse de la résistance a pu se développer aussi.
Oui, ça c'est. Il y a un certain nombre de journaux qui se replient à Lyon à l'été 1940, le Figaro par exemple, mais aussi l'Action française dans un style différent. Lyon dispose d'ateliers d'imprimerie importants et puis. Important aussi des ouvriers du livre bien formés, bien organisés. Et tout ce dispositif va permettre d'implanter des journaux clandestins très tôt et puis d'avoir les conditions matérielles pour qu'on puisse les imprimer, sachant que évidemment on manque de papier, on manque d'encre, que la répression est extrêmement féroce. Et donc, on va voir un peu différentes stratégies de la résistance, soit mettre en place des imprimeries clandestines, donc ça veut dire remonter un atelier d'imprimerie dans une cave le plus souvent.
Comme celle qui est montrée donc dans l'exposition.
C'est celle qu'on montre, donc une belle presse Minerve des années 20, une presse américaine, qui a été achetée par André Bollier, autre polytechnicien formé dans nos locaux d'ailleurs, et qui va installer un véritable atelier clandestin en sous-sol. L'affaire finira mal puisqu'il est abattu par la milice. Mais il y a d'autres groupes qui vont faire le choix de passer par des imprimeurs qui ont pignon sur rue, mais qui, entre des travaux officiels, par la préfecture, des faire-part, vont faire des travaux clandestins, donc éditer des journaux clandestins à la fermeture de midi ou le dimanche ou le soir, toujours avec autant de risques. C'est des professions qui vont être vraiment décimées par la répression, mais qui vont permettre un véritable exploit, c'est-à-dire de tirer certains journaux comme Défense de la France à 350 000 exemplaires à l'été 1944. Donc c'est des journaux qui paraissent deux fois par mois. C'est des tirages qui font presque rêver la presse d'aujourd'hui.
Vous mettez même à la disposition du public des tracts de l'époque que chacun peut emmener.
Alors, c'est des facsimilés de tracts de l'époque qu'on peut emmener chez soi parce que c'était l'enjeu aussi, c'est de diffuser ces informations-là le plus possible. Et donc, il faut remettre un peu les visiteurs dans les conditions de l'époque où prendre un tract et le diffuser, c'est déjà le premier maillon de la chaîne de la résistance.
Je voulais revenir avec vous sur l'origine aussi de ce musée, son historique, puisque donc un premier musée, je crois, a vu le jour en 65, mais pas dans les locaux de l'avenue Berthelot. Et ensuite, sans doute que le procès Barbie là, constitue un tournant. Pouvez-vous nous en dire
Oui, dès 1965, effectivement, d'anciens résistants et déportés lyonnais ont eu l'idée de constituer un premier musée. Donc, à partir de leur propre collection, chacun a versé ses propres objets de la guerre, presse clandestine, tracts, matériel d'impression, des armes, tout ce qu'on pouvait trouver seulement 20 ans après la guerre. Et ce tout premier musée s'est installé dans les locaux du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, dans deux petites salles. Et donc c'était une première trace d'une volonté lyonnaise de créer un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale. Très vite, les capacités d'accueil sont saturées, donc les anciens vont solliciter à plusieurs reprises la ville de Lyon pour qu'on leur donne plus de moyens et qu'on crée un musée digne de la ville. Et c'est effectivement le procès de Klaus Barbie, dont l'instruction commence en 1983, donc c'est vraiment un processus à long cours, même si le procès en lui-même ne dure que 8 semaines à l'été 1987. Le procès Barbie est très suivi, il y a des classes entières qui assistent aux audiences. Et ça suscite une telle émotion dans la ville et une telle envie d'entendre encore la parole de ces témoins qui, pour beaucoup, parlent pour la première fois, que la ville de Lyon accède à la demande des anciens et, le hasard faisant bien les choses, les locaux de l'école de santé sont vacants à la fin des années 1980. L'école de santé s'étant installée à l'extérieur de la ville. Et donc, on peut envisager d'installer ce nouveau musée, qui ne va pas s'appeler musée, mais centre d'histoire. C'est une volonté des concepteurs, dans les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise. Et c'est donc la naissance, 5 ans après le procès Barbie, du centre d'histoire de la résistance et de la déportation.
Quelle est justement l'approche que vous avez choisie pour traiter de la Shoah, qui était beaucoup moins présente en fait dans l'ancienne exposition?
Oui, elle était évoquée de façon peut-être plus allusive. Alors c'est vrai que la recherche a évolué depuis 1992, et puis nos collections ont évolué aussi. C'est vrai, les concepteurs du musée, je parle du tout premier concepteur dans les années 60, étaient des résistants et des résistants déportés. Donc initialement, c'est vrai qu'il y avait peut-être moins de choses sur l'histoire de la Shoah dans les collections, mais depuis 20 ans, la tendance s'est un peu modifiée. Donc on a finalement pas mal d'objets de collection qui permettent d'évoquer la Shoah. Évidemment, l'approche purement locale ne fonctionnait pas entièrement bien pour l'histoire de la Shoah. Là, il fallait aussi qu'on ait une approche européenne. C'est pour ça qu'on a un peu cette double entrée d'une approche européenne pour le phénomène et puis d'une approche locale pour expliquer comment la persécution des Juifs s'installe à Lyon très tôt. Donc tout au long du parcours, on va faire des allusions au sort des Juifs. Ça va de l'exclusion des fonctionnaires à l'automne 1940 jusqu'à la spoliation, en passant par une lettre de dénonciation qui est assez terrible aussi. Et puis la Shoah proprement dite. Donc on revient à l'idéologie nazie, on explique un peu le processus, et on a choisi de mettre en évidence un certain nombre de parcours, dont celui des enfants d'Izieux qui vont transiter par Lyon le soir de leur arrestation, le 6 avril 1944, ou des figures dont le nom évoque quelque chose pour les Lyonnais. Je pense à Atola Voloche, par exemple, qui est un sportif de haut niveau, qui a donné son nom au stade d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, très important à Lyon, du côté de Gerland, mais qui a été abattu sur les ruines de l'école de santé qui avait été bombardée en 1944, le 27 mai 1944. Donc voilà, un certain nombre de parcours comme ça, et puis des éléments de nos collections, et notamment un fonds très étonnant, qui est celui de l'APAFIDA, l'association des parents, amis, des familles françaises, des Israélites déportés en Allemagne, c'est un peu long, qui a été créée en tout début 1945 par des familles qui cherchaient les leurs, qui avaient été arrêtées et déportées, dans l'espoir de les retrouver. Donc on conserve 2000 fiches, le plus souvent illustrées d'une photographie, qui évoque les conditions d'arrestation, le nom, le prénom, etc. Et donc c'est une source extraordinaire pour l'historien. Donc on présente une partie de ces fiches, ça permet de donner un visage à ces personnes et puis de voir aussi dans quelle ignorance étaient les familles en 1945.
Et vous projetez aussi.
Et puis voilà, Maître Carcel nous a fait l'amitié de nous mettre à disposition le fichier de son nouveau mémorial de la déportation des Juifs de France. Donc on projette la liste des 80 000 victimes de la Shoah en France. Alors ces victimes, ce sont bien sûr des personnes qui ont été déportées vers Birkenau notamment et assassinées là-bas, mais pas seulement, c'est aussi les personnes qui sont mortes dans les camps d'internement sur le territoire français. 3000 personnes qui meurent de misère physiologique durant la période. Et puis les fusillés, je parlais de Tola Voloche tout à l'heure, c'est un phénomène qui a été assez massif au niveau de l'agglomération lyonnaise, surtout à l'été 1944, donc des personnes qu'on extrait de la prison de Montluc et qu'on va fusiller un peu partout dans l'agglomération. Tous sont victimes de la Shoah, qui prend en l'occurrence des formes différentes, mais c'était important de rappeler le nom de toutes ces victimes. Et pas seulement le nom, après discussion avec Maître Clarcel, on a fait le choix de donner aussi leur âge, qui permettent de mieux les humaniser en quelque sorte, et leur adresse, ce qui permet d'identifier les familles arrêtées à la même adresse.
De rendre plus concret.
Oui, tout à fait.
Toujours dans cette approche d'un ancrage local, en fait, pour que les jeunes lyonnais, mais peut-être les autres aussi, s'identifient plus facilement. Et vous avez aussi toujours dans cette même démarche pour rendre sensible cette période, chercher donc à valoriser votre fonds important, votre collection, par des objets emblématiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'objets comme ça, emblématiques de l'histoire de la résistance et de la déportation?
Alors vous avez cité, je crois, tout à l'heure, le parachute de Jean Moulin, qui est un objet étonnant dans sa forme déjà, parce que c'est en fait un fragment de parachute, donc une sorte de bande de tissu de soie très très longue, donc conservée par les proches de Jean Moulin, et en l'occurrence par sa secrétaire, Lord Yebold, qui l'a donné au premier musée en 1965. Et puis, il y a des objets faits dans les camps. Je pense, par exemple, à un journal intime d'un déporté à Dachau, un séminariste qui tient son journal pendant toute la période, jusqu'en janvier 1945, où il tombe malade et peut plus écrire. Il va mourir en février 1945. Des armes aussi, ça c'est...
Mitraillette,
ouais.
Sten MK2,
voilà.
Cross-squelette.
Une Sten, donc c'est vraiment l'arme emblématique des maquisards, qui a été parachutée en assez grand nombre, 200 000 exemplaires en France par les Anglais, qui est une arme extrêmement rustique, qui se plie, enfin qui se détache en trois morceaux, qu'on peut ranger dans un sac facilement, qui se remonte très facilement, mais qui par contre ne tirait pas très juste, donc qui a une mauvaise réputation auprès de nos anciens maquisards. On présente trois armes très, très hétéroclites, et c'est ça qu'on voulait signifier aussi, c'est que l'armement c'est un enjeu majeur pour la résistance, mais que la résistance était particulièrement mal armée. Et que souvent c'était des armes de récupération, parfois assez anciennes, et que le rapport de force n'était clairement pas en faveur de la résistance.
Également, je cite avant de conclure, des éclats d'obus, un masque à gaz, des affiches bien sûr, l'édition spéciale de combat de novembre 1942, un poste émetteur, des dessins aussi faits à Ravensbrück, et des tracts bien sûr. Merci Isabelle Rivet. Je rappelle que le CHRD a ouvert ses portes le 16 novembre avec une nouvelle exposition permanente. D'autres expositions temporaires suivront, notamment à partir de janvier 2013, une exposition autour du thème du concours national de la résistance et de la déportation cette année, qui est Communiquer pour résister. Et à partir de mars, une exposition 39-45, Les Juifs en France. Donc on peut visiter le centre du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Je renvoie à votre site internet www.chrd.lyon.fr. Quant à nous, deux adresses pour nous retrouver. www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ.